Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Sur si live et vous écoutez, j'irai cracher sur vos ondes.
Spécial cul.
Spécial, on est en train de se déconfiner nous aussi.
Laissez vos corps s'exprimer, c'est le moment. Ça y est. Avec toute cette tension qu'il y a de ne pas pouvoir se toucher, c'est le moment.
Maintenant qu'on peut de nouveau sortir.
Allez, faut y aller. Alors respectez la mètre de distance et utilisez les capotes comme toujours, mais toujours est-il qu'il est 19h, donc si vous êtes à table avec vos parents, c'est pas le moment d'écouter, on se retrouve en podcast. Et sinon, ma foi, pourquoi pas allier les plaisirs de la chair et de la chair.
Et si vous êtes à table avec vos enfants, vous pouvez les envoyer se coucher sous prétexte de les punir.
C'est très bien d'aller manger ses haricots verts devant la télé pendant que papa et maman écoutent la radio. Il n'y a pas de problème, on ne juge pas. Pour commencer cette émission spéciale cure, Marion, est-ce que tu veux ouvrir le bal ?
Bah ouais, parce que moi en fait j'ai absolument pas de connaissance de ce que c'est la littérature érotique.
Cette grande inconnue.
En fait, bon, là je parle d'un temps, c'est avant Internet, avant que des téléchargements accidentels sur Imul ne viennent détruire et parasiter mon imagination et mon innocence. Déjà avant, j'étais assez curieuse de ce que ça pouvait être. Je m'étais rendu compte, en fait, à table, quand j'étais petite, que les gens racontaient des blagues de cul, ça faisait rire tout le monde. Il y avait un peu un secret comme ça, un truc magique, un pouvoir de faire rire les gens. Je m'étais mise à apprendre par cœur des blagues de cul, et de les raconter comme ça dans les dîners en famille avec des amis, et ça faisait rire tous les adultes. Donc déjà, je sentais qu'il y avait un mystère, un truc qui était plein de pouvoir au niveau du cul. Voilà, il y avait pas, j'étais jamais tombée dessus, c'était un secret pour moi, j'étais enfant, mais n'empêche que j'étais hyper curieuse. Et un jour, je suis tombée sur les bouquins de la collection Harlequin.
La fameuse.
Il y en avait une quinzaine à peu près chez ma mère. Et je les ai lus tous d'un coup. Je me suis dit, tiens, ça, enfin, ça va répondre à des questions. Ça va,
et quelle réponse, alors ?
Et quelle réponse ? Bah,
pour les moins de 20 ans, c'était une époque où on avait des Minitel et Google, c'était compliqué, d'accord ?
Ouais, voilà. Du coup, quand tu trouves un bouquin avec une couverture rose et une police un peu alléchante, avec une quatrième de couverture qui t'explique que Kevin et Martha... entretiennent une relation fusionnelle, mais pleine de... Enfin voilà, ça vendait du rêve quand même.
Dramatique.
La quatrième de couverture, je me souviens, ça vendait vraiment du rêve.
Et donc, mais c'était le kitsch empirique.
Ouais, le problème, c'est que les bouquins sont assez courts, donc au bout de 50 pages, tu te dis, là, il s'est toujours rien passé, là. Quand est-ce qu'il se passe quelque chose ? Et en fait, le propre de ces bouquins-là, c'est qu'il se passait jamais rien.
C'est tout le problème.
Il se passait jamais rien. Alors évidemment, tu avais un homme et une femme qui se tournaient autour... voilà, il y avait de la tension, il y avait quelque chose, mais jamais, il n'y avait jamais de cul. Il n'y avait jamais de consommation. Tout ce qu'on avait, c'était peut-être le droit, à la fin du bouquin, à un baiser enflammé, suivi d'un porté de princesse et de l'homme emmenait... alors souvent, c'était un médecin qui finissait par se taper son infirmière. Il y a des histoires d'accidents de voiture, de perte de mémoire. C'était super bien fait au niveau de la narration, mais par contre, l'histoire était juste mal racontée. Enfin, il n'y avait aucune sensualité à part du coup ce truc non existant à la fin, et moi je me suis toujours posé la question, en fait, comment on fait pour décrire ce truc qui est jamais décrit dans ces bouquins là en fait.
Passer autant de temps à tourner autour du pot, hein.
Ouais,
c'est tout un art,
ouais. Et du coup quand 50 nuances degrés est sorti il y a quelques années, je me suis dit, ça y est, en fait, la littérature, c'est démocratisé.
Le momie porn a changé.
Voilà, du vrai cul. Parce que c'était ça, en fait, c'était le momie porn de ma mère de l'époque.
C'est ça, ouais.
Et ce truc-là, justement, du mariage, c'était le point culminant de tous les harlequins, en fait. C'était pas tant le sexe.
Mais c'était très moral, en fait, finalement.
C'était hyper
très
moral.
Moraliste, en tout cas.
Ça tournait autour du sexe, parce que tu t'attendais que ça. Enfin, moi, je lisais tout le bouquin en attendant
que
ça.
Ça t'appâte avec le sexe,
c'est
mais
ça.
Il n'y en a jamais.
C'est ça. Et alors, du coup, est-ce que finalement, c'est pas quand même de l'érotisme, dans le sens où
ça fait travailler ton imagination,
mais en même temps, t'as rien pour alimenter ton imagination.
Ce qu'on appelle la frustration, donc.
Ah ouais, c'est des romans de la frustration.
Et grosse frustration. Et je m'en suis jamais remise, du coup, j'ai un peu abandonné
la littérature érotique aux portes d'Harlequin.
Ouais, à cause d'Harlequin. Du coup, je me suis dit, je vais arrêter d'essayer de trouver ça dans la littérature, je vais essayer de l'expérimenter, ce sera
une autre façon.
Donc, est-ce que la littérature peut représenter vraiment le sexe, je sais pas.
C'est un grand oui.
J'espère que vous pourrez m'en dire plus. Moi, en tout cas, je suis un peu une déçue de la littérature érotique. J'étais tombée sur un autre bouquin qui s'appelait Fanny Truscott-Jones, qui était un peu une histoire de KPDP avec une nana qui...
T'es tombée sur tous les romans d'aventure qui n'étaient pas érotiques, finalement.
C'est ça, et pareil, à chaque fois, les scènes de sexe étaient squeezées. Ou alors, c'était décrit papa dans maman, et oh là là, c'est trop bien, et puis à la
mais
fin...
Mais ça, c'est le grand art de l'ellipse, tu sais. L'ellipse sexuelle.
Le fondu au noir. C'est ça.
Le fondu au noir, le relevé de caméra
et
aussi.
Et j'ai l'impression que pendant très longtemps...
Le train qui rentre dans un tunnel.
Hein. Ouais, oui, voilà. C'est ça. Genre, tout est subliminal.
C'est ça. Et du coup, je me dis, est-ce que finalement, il y a d'autres possibilités que l'ellipse pour traiter ça? Et 50 nuances degrés, ils ont choisi de pas faire d'ellipse, mais c'était franchement pas mieux, quoi.
Non, c'était pas très... Je crois que Fifty Shades of Grey est un peu un problème en termes de littérature érotique.
Mais ouais, et au final...
Pas vraiment un problème, plus un paroxysme d'une certaine littérature populaire qui, finalement, en fait, est destinée à des personnalités... type de profil, on va dire, qui sont
très très marketé, quoi.
Ouais, qui sont très très précis, c'est des adolescents ou bien, ouais. Enfin, c'est un public exclusivement féminin, frustré.
Et du coup, je me, enfin, moi, je suis restée super frustrée, quoi, de ce truc-là. Et est-ce que du coup, je me disais, bah, du coup, ma sexualité telle qu'elle est représentée dans les livres, c'est de la frustration.
Donc, mais après,
bon, allons-y.
Franchement, ce qu'on peut dire, c'est que la frustration du lecteur ou de la lectrice, je pense qu'il est à la hauteur de la frustration de la personne qui écrit ce genre de truc. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment du taf alimentaire extrêmement codifié. Enfin, ouais. Je veux dire, les auteurs et les autrices, ils ont des listes de mots à placer. Ils ont déjà le background et l'univers qui est décidé. Le nombre de personnages
pour
aussi.
Pour les structures.
Bah, pour Mommy Porn en général. Quoi. C'est vraiment c'est très très calibré. Ah bah, Fifty Shades, c'est une autre histoire. C'est une histoire de fanfiction, etc.
Ça, au début, c'était le récit. Justement de l'anti-frustration, c'était le récit du lâcher-prise.
Mais je pense que c'est en ça qu'il a vraiment marché, qu'il a gagné en popularité, parce que c'est un truc qui vient d'une initiative vraiment très personnelle et qui a fonctionné parce que des gens se sont dit, yes, un truc de
fan. En fait, il y a une frustration particulière qui a été exploitée. La frustration de pourquoi est-ce qu'il ne couche jamais dans Twilight. C'est terrible. Ça aussi, là, on parle de tourner autour du pot, mais alors vraiment, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi épuritain et en même temps extrêmement sexualisé dans tout ce qui n'était pas le sexe.
Mais est-ce que finalement, Fifty Shades, il a pas trouvé un public qui était en fait le public de fanfiction qui ne connaissait pas les fanfictions?
Ouais, sûrement.
C'est vrai, il y a un peu ça. Ouais.
Parce que beaucoup de gens ignorent finalement aussi ce truc dans lequel Fifty Shades of Grey est une réécriture de Twilight, finalement.
Moi, je ne savais pas, ouais.
Ils ont enlevé le côté loup-garou et vampire, mais effectivement...
Les mêmes rapports de pouvoir, quoi.
En vrai, finalement, mais c'est un grand classique, ado. Le côté ado, voyage initiatique, rencontre avec l'autre, découverte de soi, découverte de l'acte charnel, mais dans une conception complètement classiciste du couple hétéronormé. Avec,
le problème de Fifty Shades, c'est que c'est plus des ados, quoi.
Vraiment. Il y a aussi cette chose dans laquelle
c'est très mal. Ça devient du coup un peu malsain.
Une adolescente avec quelqu'un qui est probablement centenaire, c'est.
Vu la quantité d'argent.
C'est quand même assez coquin, finalement.
Bah, c'est pas juste un centenaire, c'est un centenaire qui vient dans sa chambre la nuit pour la regarder dormir, quoi. Enfin,
quand toi, moi, j'étais dans Fifty Shades. Dans Fifty Shades, c'est plus des ados.
C'est qu'il y a aussi cette espèce de continuation d'une sexualité très adolescente, mais avec une grammaire BDSM. C'est un peu étrange parce que BDSM est pris
de
comme jardinage
de jardin bah,
parce que c'est un tag qui fonctionne bien.
Ouais,
on va pas se mentir, c'est un tag qui fait que oh, ça c'est extra chili, mais genre l'extra chili européen, quoi. Si t'es guadeloupéen, c'est mort.
Ouais, c'est ça, mais en fait, ton imagination, elle est guidée, mais c'est pas vraiment... C'est pas un matériau qui est hyper émancipant, quoi. Enfin,
pas exactement. Puis,
je comprends mieux la sexualité de ma mère, du coup.
C'est un peu un parent con du classicisme, tu vois. Peut-être comme la sexualité de ta mère, je sais pas.
C'était un peu triste et un peu étrange, quand même.
Ouais, non, mais toutes ces femmes qui ont grandi, justement, dans cette littérature, la littérature harlequin, où, en même temps, c'est quelque chose, c'est un peu le Graal, mais en même temps, on n'en parle pas, en même temps, c'est sale, mais en même temps, faut bien le faire, parce que c'est le mariage, il y a tout un truc, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est génération frustration, quoi.
Alors que la littérature érotique n'est pas une littérature qui est uniquement une littérature de la suggestion, c'est une lecture qui aborde très directement l'acte de chair, le désir, c'est plus aussi quelque chose qui tient beaucoup au côté très populaire de la chose. Ce qui est très populaire, les collections Harlequin, tous les best-sellers, etc. Je pense au San Antonio, qui sont une vraie belle exception à ça. Qui finalement, je les classe assez facilement dans les romans érotiques, dans les séries de romans érotiques. San Antonio, c'était des best-sellers type Polar, OSS 117 avant, OSS 117 et avant cette grande folle de Jean Dujardin. Donc vraiment un best-seller des années 70 type roman de gare avec des grosses actions, un détective français très isolé, très viril aussi, très grotesque énormément, mais en même temps avec un certain panache très 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 Cyrano de Bergerac dans le genre. Et alors un verbe absolument incroyable de Frédéric Dard
et une verbe absolument incroyable,
je sais pas si t'as fini, je m'excuse si jamais je te coupe, mais il me semble que c'est le moment parfait pour transitionner sur une écriture, un verbe des années 70 également avec Anaïs Nin.
Ça va bien?
Après, j'en ai mon doigt. C'est chaud. Trop tard pour le déguster. C'est chaud.
Allez, on y va, on déguste.
Avant de commencer cette chronique, j'avais envie de vous demander un peu ce que ça vous évoque, comme ça, après le pourpoint, Anaïs Nin. Les auditeurs et auditrices peuvent faire le même exercice chez eux, c'est juste que je les entends pas.
Anaïs Nin, moi je pense à Anaïs Nin, Henry Miller, nécessairement. C'est rare d'avoir deux auteurs qui vivent une relation et qui en plus sont ensemble. Du coup, ça donne quelque chose de très très intéressant dans tout ce jeu d'intertextualité qui s'établit entre les deux. Là, quand on parlait de verbes, ouais, c'est très différent. Les deux manières d'écrire sont très très différentes. Il y a deux énergies absolument... Et pourtant, il y a quelque chose qui les rapproche un peu justement là-dedans.
Ah, mais ils en sont très conscients en plus. Hein.
Moi, c'est ça que ça m'évoque essentiellement, ce couple.
Voilà. Ben, moi, on en parlait hors antenne il y a pas longtemps, mais effectivement, dans les articles que j'ai lus en potassant la littérature érotique, il y avait beaucoup ce nom qui ressortait. Donc, à part ça, j'ai jamais lu.
Ça m'évoquait uniquement sa condition bourgeoise, j'ai jamais rien lu. Je me disais, ah, c'est encore des gens qui ont pu écrire parce qu'ils avaient de la thune. Un peu d'aigreur, peut-être.
Peut-être.
Eh bah, bien, écoutez, moi j'ai fait une petite recherche Google pour voir ce que ça donne en termes de résultats. Et en premier lieu, je tombe bien entendu sur le sempiternel Wikipédia, qui nous apprend qu'elle est née sous le nom de Rose Jeanne Anaïs Eldemira Antonia Nin, en 1903.
Je m'en suis bourgeoise.
Yeah. Le petit résumé nous apprend également deux éléments. 1. Elle doit sa notoriété à la publication de ses journaux intimes qui s'étalent sur plusieurs décennies, offrant une vision profonde de sa vie privée et de ses relations. 2. Elle est aussi l'une des premières femmes à écrire des ouvrages érotiques. Wow.
Ce qui est en soi assez faux, c'est en juste plus, que c'est une des premières à être reconnue.
Et à avoir été vraiment bien vendue sur ce type d'écrit,
oui,
en fait.
C'est ça. Elle a été un bon représentant, très bon représentant, je pense.
Du coup, retour à la page de recherche. Deuxième résultat, on a le site Babelio avec l'entrée Anaïs Nin, auteur de Vénus Erotica. Je remercie particulièrement l'auteur de l'article pour avoir pu écrire en tout début cette épouse pourtant dévouée. On a écrit en 60 ans plus de 45 000 pages relatant ses aventures, expériences et réflexions.
Et vous vous rendez compte, elle arrivait encore à changer des couches.
Non, elle n'a pas eu d'enfant pour le coup, on en reviendra.
Elle a un mari et elle arrive à être épanouie.
Je vais pas tout passer en revue, mais sachez que pour la suite, les mots-clés qui ressortent le plus, c'est Henry Miller, comme tu le disais Sophie, inceste, passion, et qu'on trouve nombre de ses entretiens datant de la dernière décennie de sa vie.
Pourquoi votre route a croisé autant de chemins célèbres? Est-ce que c'est par hasard que vous avez rencontré tous ces gens?
C'est pas important, mais si j'avais une passion pour les gens qui créent quelque chose, alors naturellement, parmi tout ça, il y a eu des personnes qui sont devenues connues.
Mais qu'est-ce que c'est que cette passion pour vos... pour les autres écrivains, pour les artistes?
Oui, j'ai toujours eu un faible pour ce que j'appelais les gens qui étaient occupés à transformer le monde ou à donner quelque chose au monde.
C'est très rare qu'un écrivain aide un autre écrivain. Or, vous les avez beaucoup aidés. Pour Miller, dans les lettres à Anaïs Nin, c'est toujours merci pour l'écharpe, merci de m'avoir envoyé un peu d'argent, merci.
Mais c'était des dons qui venaient des deux côtés. J'aime que le monde soit plein de bons écrivains. On s'encourageait mutuellement, c'est pas moi seulement. Vous savez, c'était une question d'amitié, de s'encourager, de servir de public.
Bon, alors ce journal, c'est une œuvre monumentale dont on ne connaît que des extraits, si j'ai bien compris.
Mais je laisse passer, par exemple, au commencement, quand on est enfant, on veut tout dire, n'est-ce pas? Il fallait que je mette quelque chose. Mais ça, c'était une obsession, ça passait. Maintenant, je choisis ce qui m'intéresse.
Pourquoi tenez-vous un journal depuis l'âge de...
C'est une chose que je recommande à tout le monde, parce que on voit sa vie, on voit un peu, c'est comme le journal de bateau, on voit si votre vie devient étroite. Alors si vous n'écrivez pas, vous ne savez pas très bien exactement ce que vous sentez, ce que vous voyez. Et aussi je conserve, comme ça, les moments de la vie que j'ai aimés, je peux les revivre. C'est le désir de tous les écrivains, je crois d'ailleurs, de...
Et vous dites quelque part que le journal, c'est un opium, c'est de l'opium, c'est une drogue.
Et vous savez ce que je dis dans le journal 1, c'est pas toujours dans le journal 2, ah. Et c'est pas toujours ce que je pense aujourd'hui.
Pourquoi alors?
Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un opium, c'est au contraire un portrait très vif des gens que j'aime.
Et donc, c'est sur ce journal que je souhaite me pencher aujourd'hui. Avant, un petit point sur Vénus Erotica. Vénus Erotica, à la base, bah, c'était un recueil de nouvelles érotiques qui avait été commandé à Henry Miller par un gars riche et libidineux. Du coup, Henry Miller, c'était plutôt sa case, il trouvait ça marrant, c'est un taf alimentaire pas mal.
Il y a des sous.
Bah, Henry Miller, ça, finalement, il s'en lasse. Et du coup, bah, c'est Anaïs qui vole à son secours et qui va lui rédiger, en fait, ses nouvelles.
Qu'elle est plus
dévouée. C'est un espace de liberté pour elle, mais si elle le fait sous le nom de Henry Miller, ils ont une amitié...
Donc la licence poétique d'Henry Miller, en l'occurrence, est assez large.
C'est ça, donc pour elle, c'est un espace merveilleux à envahir, en fait, donc elle va bien se faire plaisir dessus. Et puis, enfin, ils ont une telle entraide, bon, j'ai l'impression... Mon point de vue féministe me fait dire que c'est plus Anaïs qui porte Miller que le reste. Et enfin, elle a même parlé à un moment donné de prostitution littéraire, donc bon... En tant que femme bourgeoise, elle a beaucoup fantasmé sur la prostitution, mais c'est pas l'objet de ma chronique. Le point Vénus Erotica est fait, on en vient au journal. C'est une œuvre complexe, une œuvre colossale, plus de 15 000 pages, mais aussi une œuvre très difficile d'accès. Je vous conseille vivement d'écarter les éditions qui sont des décennies 1970, car étant publiées de son vivant, elles ont été expurgées en bonne partie, parce que bon, il y a tellement d'aventures extra-conjugales de l'épouse qui dévouait que la Go, elle devait tenir une lay-box, une boîte des mensonges pour s'y retrouver parmi les versions qu'elle donnait à chacun de ses amants quand elle allait voir X ou Y et qu'elle fournissait X ou Y excuses.
Il y en avait combien du coup des amants à peu près?
J'ai pas de chiffres à te donner, mais clairement elle va chez le psychanalyste qui est son amant, puis après elle va chez le poète Henry Miller, puis ensuite elle va chez quelqu'un d'autre, et puis après elle va voir June qui est genre... Ils ont une histoire de plan à trois, enfin... Il y a du monde sur la table quoi.
D'accord. Il y a généralement beaucoup de monde sur la table avec ces deux-là, c'est assez impressionnant.
Ouais. Puis Henry Miller lui ne se prive pas d'aller au bordel, etc. Donc bon... La différence qu'on peut se dire entre les deux, c'est que lui, il va très bien pour le cul, mais elle, on sent qu'il y a un vrai amour pour les gens, en fait, et qu'elle s'investit pleinement dans ses relations, aussi nombreuses soient-elles. Mm. Précurseur du polyamour, je lâche ça. Cependant, c'est pas l'orgueil d'un trompé qui a seulement agi sur ses explorations. Parmi les épisodes censurés dans le journal d'Anaïs, il y a aussi ce passage narrant son avortement dans les années 40. Donc, ça se trouve dans le tome Mirage, qui a pas encore été traduit en français, mais on peut lire cette scène où elle rencontre une femme, anonyme et angoissée, alors qu'elle-même se remet à l'anesthésie de son opération. Et cette femme anonyme devient universelle dans ses lignes.
I wanted to pull the curtain and see her, but I realized she was all women. The humility, the thoughtfulness, the fear and the childlike moment of the utter defenseless. A pregnant woman is already a being in anguish. Each pregnancy is obscure conflict. The break is not simple. You are tearing away a fragment of flesh and blood. Added to the deeper conflict is the anguish, the quest for the doctor, the fight against exploitation, the atmosphere of underworld bootlegging, a racket. The abortion is made a humiliation and a crime. Why should it be? Motherhood is a vocation like any other. It should be freely chosen, not imposed on women.
Rapide résumé pour les non-anglophones. Avorter, c'est l'angoisse, c'est vraiment, on cherche le docteur, on se bat pour pas être exploité utérinement parlant, c'est très compliqué, c'est vécu comme une humiliation et un crime, et pourquoi cela en fin de compte? Bon, poser cette question-là dans les années 40...
Ouais, c'est déjà...
Ouais, c'était...
Pas mal émanciper la bourgeoise,
de la maternité en véritable voie, en véritable vocation. Mmh. Qui devrait être choisi en l'occurrence tel quel.
C'est ça.
Et pas imposé. J'allais dire quand même l'érotisme de l'avortement, on est.
Ah bah non, on va rentrer dans le sujet. Donc pour contextualiser un petit peu, elle décrit une scène qui a duré. C'est une relation qui a duré plusieurs mois, qui est relatée dans son journal, plus précisément dans le tome des années 1932 à 1934, qui est intitulé Inceste.
Il m'a caressé les seins et les bouts se sont durcis. Je résistais, je disais non, mais les mamelons se durcissaient. Et quand sa main m'a caressée, quelle science dans ses caresses, j'ai complètement fondu. Cependant, une part de moi demeurait rétive et terrifiée. Mon corps cédait à la pénétration de ses doigts, mais je résistais à la jouissance. Je ne voulais pas montrer mon corps, je me suis contentée de découvrir mes seins. J'étais timide et réticente, mais profondément troublée. Je veux que tu jouisses, jouis. Et ses caresses étaient si précieuses, si subtiles. Mais j'étais incapable de jouir, et pour lui échapper, j'ai fait semblant. Je me suis à nouveau allongée sur lui, et j'ai senti la dureté de son sexe. Il s'est découvert, je l'ai caressé, je l'ai vu trembler de désir. avec une étrange violence. J'ai enlevé mon négligé et je me suis couchée sur lui. « Toi, Anaïs, je n'ai plus de Dieu !» Son visage extatique et moi folle de désir de m'unir à lui, ondulant, le caressant, me collant à lui. Son orgasme fut terrible, de tout son être. Il s'est vidé tout entier en moi. Et mon consentement était sans limite, de tout mon être, avec seulement ce noyau de peur qui m'a empêché d'éclater dans un suprême orgasme.
Un sexe, oui, du coup, c'est qui? C'est son, bien, père.
Exactement, c'est son père, non, qui l'a abandonné quand elle avait 11 ans, mais bon, s'il n'est pas intéressé par la petite fille, apparemment la femme de 30 ans lui convient un peu plus. Hein. Et donc il est bien content de profiter de cette relation-là.
Nice.
Je me doute que votre potentielle excitation est un peu parasitée par le malaise, voire le dégoût.
Et vous aurez retombé quand même. C'est de souffler.
J'y reviendrai, mais enfin, c'est à ça qu'on s'expose en fait, qu'on rentre dans le journal intime d'Anaïs Nin. Non, c'est pas que des scènes choquantes pour le plaisir de choquer, mais c'est la lecture d'un journal qui nous renseigne largement sur une relation incestueuse, mais également abusive. L'extrait-là, lu, donne à entendre le père qui prend sa fille. Je vous ai pas mis les lignes où il l'abandonne à 11 ans. Celle où il la photographie nue à sa puberté.
Au top.
On sent qu'il y a vraiment un petit souci, quoi, dans la psyché d'Anaïs.
Un et petit en quelque fait, chose en trop dans cette éducation.
Elle n'est pas dupe, en fait, de cette relation et de ses travers.
Je ne crois pas que je cherche un homme, mais un dieu. Je commence à éprouver un vide, qui correspond certainement à l'absence d'un dieu. J'ai déifié l'homme. L'un après l'autre, j'ai cherché un guide, un père, un chef, un soutien, un mari, un protecteur, des amants, un père, des camarades. Mais il me manque encore quelque chose. Ce doit être Dieu. Mais je déteste un dieu abstrait. Je veux un dieu de chair, un dieu incarné et fort, avec deux bras et un sexe, et sans défaut. J'ai aimé le génie, ce qui se rapproche le plus de la divinité.
Quand on lit ça, quand on réunit des facteurs abandonnés, enfants, son père écrit, elle est en admiration totale devant les gens qui créent et les artistes.
Et elle baisse son psychiatre.
Ouais, voilà. On comprend qu'elle vit her journey, tu vois, et qu'elle y passe par là et qu'elle elle le montre sans phare, en fait.
Elle s'en va sur son chemin semé de bites.
Et t'as une preuve.
Un papillon.
Mais ça, c'est intéressant, les journaux, pour ça. Au moins, les versions non expurgées, parce qu'il y en a quelques-unes qui existent quand même. Tous les écrits qu'elle avait pu vouloir.
En fait, elle s'est arrangée, elle a réglé assez bien sa succession en confiant à son dernier amant, dont j'ai oublié le nom. Elle l'a chargé en fait de publier son œuvre après sa mort. Déjà d'une part parce qu'elle préservait son mari, mais aussi parce qu'elle voulait qu'il y ait
tant
le journal,
c'est érotique son à titre posthume, c'est impressionnant.
C'est ça. Et du coup, quand elle nous livre tous les détails les plus dérangeants, sordides et authentiques de cette relation, finalement, bah, c'est avant tout d'elle qu'il est question, en fait, de ses traumas, de sa psyché, de ce à quoi elle aspire et de ce contre quoi elle bataille. Et bah, des fois, les batailles, on les perd. Et quand on lit Anaïs Nin, c'est un prisme d'émotions contradictoires et déstabilisantes qui va nous traverser forcément, tant elle questionne notre réalité, notre morale, et également la littérature et ses droits. Est-ce qu'on a le droit de tout dire, de tout écrire? Tout ce qu'elle confie, c'est à la fois des rêves.
Rêve. J'assiste au mariage de quelqu'un. J'attire l'attention d'un homme grand aux cheveux gris. Merveilleuse caresse de l'homme, me suis réveillée mouillée et le cœur battant.
Pêle-mêle avec ses lettres.
Ce que June a appelé ta période morte fut une période de reconstruction par la pensée et par le travail, entre deux effusions de sang. Et peut-être, lorsque tu auras épuisé tous les combats, tu en déclencheras un contre moi, et moi, un contre toi. Le combat le plus terrible de tous, celui contre nous-mêmes, afin de tirer un drame de notre dernière forteresse, de nos extases, de notre histoire d'amour.
Et enfin, son analyse du monde, d'elle-même, de ce microcosme pour lequel tout est intriqué.
Dans le train, 5 pères dieux masculins me regardaient, de manière obsédante. Il y a une fissure dans ma vision, dans mon corps, dans mes désirs, une fissure immuable. Et la folie fera sans cesse des allers-retours. Les livres sont noyés, les pages se plissent, le lit grince, chaque pyramide de perfection est anéantie sous la poussée du sang. Les efforts que je fais pour délimiter, ciseler, séparer, simplifier sont idiots. Je dois me laisser couler dans plusieurs directions à la fois.
De son vivant, le journal avait paru tronqué, censuré, mais il y a un vrai intérêt littéraire, sociologique à voir ce journal d'une femme abusée et abusive qui ne trouve le salut que dans la passion amoureuse et dans la passion de l'écriture, mais aussi dans la dissimulation.
Je suis trop fière pour me donner, pour me confier, me livrer au grand jour. Je choisis une littérature ésotérique, un journal secret, une passion unique. Trop fière pour céder aux liaisons ordinaires. Noble. Tout doit être grand, noble.
Peut-être qu'on va pouvoir me reprocher que j'ai monté là qu'un patchwork de citations pour me dissimuler moi-même le fond de ma pensée sur Anaïs Nin, mais ma foi, elle a tellement été bâillonnée et morcelée qu'à un moment donné, il fallait faire entendre ces mots-là. Puis je vous avoue, Anaïs Nin, j'ai lu un tome, celui de l'inceste, mais j'ai surtout en fait découvert Anaïs Nin à travers les yeux et la lecture de quelqu'un qui est passionné, voire hanté par Anaïs Nin. C'est Maureen Greenmauve, plus connue sous le pseudonyme de Digly, qui, je pense, a y trouvé les meilleurs mots sur son blog en 2019. Lire Anaïs Nin, c'est éprouvant, rassurant, dangereux, viscéral, poétique. Son journal, c'est l'exploration de la névrose par le truchement d'un jeu surréaliste et poétique. Un jeu au féminin, la voix de l'autre, de l'invisible, une sorte de sorcière et de fée, calculatrice et brisée, solitaire et fusionnelle. Je ne vois pas moyen de dire mieux. Néanmoins, je vous ai promis une conclusion, donc si on devait dire encore autre chose, pourquoi parler d'Anaïs Nin dans une émission spéciale littérature érotique? Est-ce qu'on a raison de lui accoler cette image, au risque de l'y réduire? Loin de moi de l'idée de dénigrer la littérature érotique, quand je dis qu'Anaïs Nin ne peut s'y réduire, on ne peut pas effectivement la réduire à Vénus érotica. Cette littérature érotique-là, ça ne peut pas la contenir en toute sa plénitude, sa complexité et sa liberté. Dans cette érotique-là, on passe à côté de la littérature. Je pense pas qu'on puisse faire l'économie pour autant de l'érotisme quand on la lit, au sens où l'éros, l'amour, la passion sont omniprésents. Que ce soit l'amour qu'elle porte à ses relations, dont elle consigne ici la trace, les amours charnels et interdits qu'elle relate avec un goût du détail cru, vrai, fragile et beau. Les amours des arts et de l'acte créateur, cet acte d'écriture qui est chez elle un acte du regard, un acte de perception, d'analyse, de photographie. C'est un amour entier, dévorant, obsessionnel et surtout passionné. Donc ça me semblait un peu évident d'en parler.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir fait découvrir cet aspect-là
de littérature.
Nous vous proposons un interlude musical avec Sex Appeal de Sexy Sushi.
Le sex appeal de la policière me fait mouiller devant derrière. Le sex appeal de la policière. Je lui demande ma direction. La policière est super canon. Elle m'amène jusqu'à sa maison. Et là j'enlève mon pantalon. Policière aux cheveux bouclés dans son uniforme super moulé. En mes tétons tout pointé. Je prends mon pied, je prends mon pied. Elle m'attache avec ses menottes. La policière se déculotte. La policière a du chagrin. Et moi j'enlève mes escarpins.
C'était Sex Appeal de Sexy Sushi. Vous écoutez Jerry cracher sur vos ongles sur Radio Syllab.
Alors, nous revoici pour notre podcast spécial érotique. Et à ce propos, est-ce que vous saviez qu'il existait un prix SAD? Alors, c'est très cocasse parce que ça a été mis en place par Lionel Aracil et Frédéric Becbédé, hein, tous, surtout pour son féminisme. Et donc, pour, je cite, célébrer le libertarisme contemporain. Voilà, petit loin là, tout ça. Alors, il se trouve que Annie Lebrun a été citée dans le jury alors qu'elle n'avait pas été consultée et que ça l'a un peu vénère. Alors, Annie Lebrun, c'est une rennaise d'origine, écrivaine, poétesse, critique et grande spécialiste de Sade, qui s'est fait un plaisir de les démonter, mais alors les démonter. Juste une citation, parce qu'elle trouve le prix qu'on remet abominable, c'est un fouet. Et juste pour vous donner un petit avant-propos, ça finit par « Que voulez-vous ? Tout le design du monde ne réussira jamais à maquiller tant d'indignité. »
Quelle indignité !
Je vous laisse savourer ça, et on retrouve du coup Sophie, qui a beaucoup à nous en dire.
Qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup à discuter, ouais, sur le sujet de l'érotisme. Annie Lebrun qui a écrit un livre qui a un très joli titre qui s'appelle Sad, un bloc d'abîme. Et je sais pas, je trouve ça très joli, surtout pour désigner en plus la littérature sadienne. Je pense que si ça l'a fâché aussi beaucoup, cette histoire de prix Sad, c'est que, et bah, c'est une lecture qui est très très courante de Sad finalement, comme une espèce de parangon de l'érotisme, dans une vision très libérale, très, beaucoup de libéraux de la pensée actuelle.
Est-ce qu'ils ont vraiment lu au final ça
C'est-à-dire qu'ils ont lu beaucoup les discours de ces personnages, notamment.
Il y a une confusion.
Ce qui est quand même très difficile à... C'est de la fiction. Les dialogues sont au service d'une fiction qui, en effet, dit des choses. Les dialogues des personnages ne sont pas Assad. Il a une manière de tirer la pensée vers des extrêmes, et au passage, d'ailleurs, de rafler littéralement et de raser tout préjugé moral ou religieux. C'est un bulldozer, un peu, de la pensée. Et pour en arriver à quoi ? Pour tirer la pensée à un point où il vient en tester les limites, et c'est pour ça qu'il est aussi très intéressant. Le sadisme n'est pas exactement prendre son plaisir dans la destruction de l'autre, par exemple. Ça a été tiré bien plus tard, et du coup, la lecture de Becbédé, etc. Elle est un peu fleur bleue, en fait.
Elle est un peu simpliste.
Oui, il a pris ce que les personnages disent et il en a fait son...
En fait, il s'est juste inscrit dans quelque chose d'assez pute et d'assez facile, finalement, qui est genre l'héritage sadien.
C'est de la com.
Ouais, c'est de la com à 100%.
On veut parler de cul, ça tout le monde connaît, on va appeler ça le
prix. C'est utilisé comme un accessoire, vraiment.
C'est pas nouveau qu'on prenne un élément extrêmement tabou et fort et qu'on en fasse une version, on va dire, girly, aseptisée, qui soit plus vendeur et plus facile à accepter dans notre société puritaine et capitaliste.
Oui, c'est ça. Donc, surtout sur quelques considérations un peu épistémologiques sur qu'est-ce que c'est que la littérature érotique, parce que finalement, on a vu que, on a commencé avec la collection Harlequin, qui finalement est un peu de l'anti-érotisme en soi. Ou alors l'essence même de l'érotisme, c'est un extrême ou l'autre, quoi. C'est vraiment. Donc, je suis allée voir quelques définitions assez rapidement. Sachant que la littérature érotique, le terme est très très ancien. L'érotisme, avant la littérature érotique, il y a tout le domaine de l'érotisme qu'il faut traiter. C'est à ce moment-là que je vais chercher mes définitions. Alors en termes d'érotisme, donc, notamment je suis allée voir le CNRTL, le Saint CNRTL, pour qu'il m'explique que d'un point de vue psychologique, pathologique, l'érotisme désigne la recherche du plaisir physique ou la tendance à privilégier telle ou telle zone corporelle. Par extension, du coup, la capacité qu'ont certaines zones corporelles à susciter un plaisir sexuel. J'ai voulu commencer par ça, parce que tu me demandais s'il y avait de la littérature érotique un peu qui peut incarner vraiment cet érotisme. Mmh. Et je pense que dans la littérature érotique, il y a ce rapport au corps, nécessairement. C'est une des littératures qui parle, je pense, autant à l'esprit qu'au corps. Et à titre très personnel, c'est également une de celles qui m'intéresse le plus justement pour ça, parce qu'elle entretient un lien très très étroit avec la véritable corporéité, la réalité très très matérielle des choses, que ce soit celle des corps, que ce soit celle des individus, ou des rapports, des sensations. La littérature érotique, alors donc, d'une part, va se définir comme le caractère de ce qui est dans la pensée ou le comportement suggère, suscite, révèle ou accompagne le désir sexuel. Essentiellement sexuel.
Et ne le frustre pas seulement.
Et ne le frustre pas seulement. Il y a vraiment cette idée un peu dans l'érotisme qui a été longtemps véhiculée aussi, dans laquelle l'érotisme, c'est ça, c'est donc tourner autour du pot.
Ouais.
C'est parler par l'absence de l'acte sexuel, mmh, finalement. Genre cet art de l'ellipse qui est très significatrice, finalement. C'est en fait créer du sens par l'absence, enfin solliciter par ce qui manque, en fait, finalement. Mmh. Donc oui, on parlait de cette frustration. Il y a cette frustration qui est un petit peu au cœur de la littérature érotique. Mais ce serait aussi passé en dehors du fait que la littérature traite littéralement de ça. Elle traite de ce rapport, elle ne se contente pas de l'esquiver.
Mmh.
Ce qui l'esquive, en l'occurrence, c'est peut-être le rapport au collectif, plutôt. Dans le sens où l'érotisme, au niveau collectif, est forcément défini selon des critères moraux. Selon des critères... selon des jugements, finalement, en fait. Quand on essaye de recouper toutes les différentes définitions d'érotisme qu'on retrouve, d'aucuns vont, par exemple, recourir à la pornographie pour créer une définition contre quelque chose.
C'est beaucoup mis, effectivement, ces deux termes à poser pour essayer de créer du sens à l'un et à l'autre.
Alors que par finalement, différence, les objets sont assez similaires, finalement. On reste sur ce désir sexuel. Dans l'illustration où pas forcément l'illustration, dans l'évocation ou pas forcément dans la suggestion. La limite tient à cette idée d'obscénité.
Ouais.
Encore une fois, ce qu'on disait. Et l'obscène est une notion qui est hautement culturelle.
Mmh.
Est une notion
morale,
qui est contextuelle. Et morale, nécessairement.
La princesse de Clèves qui monte ses chevilles, c'est déjà...
La princesse de Clèves, incroyable exemple de roman de la frustration. En l'occurrence, je pense qu'on y est tous passés au moins une fois au cours de nos scolarités littéraires ou pas littéraires.
Moi, j'y ai échappé.
Ouais, high five confiné.
Et pourtant, il y a cette chose qui est intéressante là-dedans, c'est que du coup, La Princesse de Clèves est un très grand roman, parce que c'est un très grand roman de la frustration aussi.
Mm-hmm.
C'est un roman de la tension.
Mais est-ce qu'on peut appeler ça de l'érotisme, du coup ?
C'est une bonne question. Ouais, à mon sens, oui. C'est-à-dire, après, j'ai une définition qui est extrêmement large et extrêmement ouverte de l'érotisme, dans le sens où si on note les paramètres moraux, énormément de choses rentrent dans la littérature érotique. Pareil, est-ce qu'on doit parler, par exemple, de scènes érotiques dans des romans qui ne le sont pas forcément, ou est-ce que tout roman qui contient des scènes érotiques
sont catalogués érotiques?
Voilà. Est-ce qu'on isole vraiment? Est-ce que c'est uniquement quand ça parle de ça? Ou alors est-ce que vraiment on peut avoir des romans qui entièrement, même quand ils n'apportent pas le sujet du sexe, sont des romans érotiques?
C'est vraiment une bonne question. Pareil pour la bande dessinée, qui est encore plus flagrant, parce qu'il y a
carrément le visuel. Le côté
visuel. Est-ce qu'une œuvre peut être non érotique s'il y a une scène de cul à un moment qui est plus que juste suggérée? Je pensais en l'occurrence à Bastien Vivès, Une sœur, où c'est un peu les vacances d'été d'un jeune prépubère qui découvre un peu les choses de la vie. Et donc il y a une petite scénette, il joue à touche pipi, quoi, avec la nana qui serait sa sœur, qui est en fait l'amie de la famille.
En contrepoint sur la BD, ce qui me posait question, c'était toutes ces histoires qui sont généralement écrits par des hommes cis, hétéros, qui ne sont a priori pas sujets à des histoires d'érotisme, etc., mais qui ont une imagerie extrêmement hyper sexualisée. Bah, par exemple, Bastien Vivès, quand on regarde Last Man, qui est fait avec Balak et Salanville, Je veux dire, je sais pas comment les meufs font pour survivre, mais les vêtements ne servent pas à grand chose, les seins et les fesses ont des dimensions énormes. Bah...
Le manga est parasité.
Et du coup, dans ces cas-là, on est quand même sur une imagerie érotique. Parce que, enfin, je veux dire, c'est pas que du chara-design, c'est aussi des scènes où les meufs tiennent le micro de manière extrêmement tendancieuse.
Dans tous ces animés qui ne contiennent aucune scène de cul, mais qui sont.
Qui suintent le cul,
C'est suinté, quoi.
Est-ce que tout le monde visualise cet extrait où la femme. Le résumé de l'action, c'est un monsieur tire sur des robots et il sauve la meuf. Si on raconte, on va dire symétriquement à la scène, c'est des seins qui se meuvent de manière gravitationnellement impossible.
Oui, le fameux plan gratuit de seins ou autre, de décolleté, voilà, de forme. On parle là d'une imagerie qui n'est pas érotique en soi. On parle d'une imagerie qui est sexuelle, véritablement sexualisée, une imagerie de la sexualisation qui peut entretenir des liens très étroits aussi avec l'érotisme. Il y a toute cette notion d'obscénité en fait qui est très intéressante, qui suivre l'évolution de l'obscénité au fur et à mesure des siècles, c'est aussi suivre les limites de la représentation en contexte. C'est qu'est-ce qui est montrable, qu'est-ce qui est dissible, qu'est-ce qui est représentable, qu'est-ce qui ne l'est pas finalement. L'obscène, ça va désigner cette frange du réel exclue en fait, qui est d'un mouvement un peu collectif, d'un commun accord, on voudrait presque dire, ou pour des raisons attachées à une communauté, attachées à un dogme, attachées à des lois aussi également, parce qu'on oublie aussi très fréquemment que dans l'obscène, il y a aussi une très grande part d'inégalité.
Et l'artiste japonaise qui est partie en prison à plusieurs reprises parce qu'elle avait, et c'était même pas érotique, c'est qu'elle avait fait un moulage de sa chatte et qu'elle en avait fait un kayak. Et du coup, le fait qu'elle ait donné en récompense, c'est Fanny, elle aurait pu vous en parler, Rodananchinko. Mais cet artiste est parti plein de fois en prison.
C'est une polémique qui se crée autour justement de cette notion d'obscénité en fait. Parce qu'il y a aussi cette idée de être obscène, cette frange du réel qui habituellement est exclue et qui fait effraction un peu sur le devant de la scène. Il y a cette idée aussi dans laquelle on met en avant quelque chose qui est habituellement caché et du coup nécessairement ça oblige à réfléchir à la question de pourquoi c'est caché, dans quel contexte de toute la. En fait, il y a énormément de symbolique dans toutes ces références parce que par exemple il n'est pas dérangeant de voir un sexe d'homme sur une statue grecque mais sur une photographie contemporaine plus. En fait, ça interroge énormément de savoir aussi qu'est-ce qu'on peut représenter ou pas. Et notamment, l'érotisme se joue beaucoup autour de toute cette articulation et plonge un peu les mains dans cet indicible, dans tout cet aspect un peu sacré, finalement, de ce qu'on se cache habituellement et dans ce qu'on refuse de voir. C'est pour ça qu'il y a aussi une très grande tension, non seulement entre donc, ce désir qui est une pulsion de vie et la pulsion de mort aussi derrière, qui va avec, parce qu'il y a, tout ce truc de l'exploration des limites et de la transgression qui va avec.
Ouais, l'érotisme,
c'est énormément lié à la transgression et la transgression dans son procédé en soi, c'est de la symbolique. C'est toujours des actes symboliques signifiants qui sont déconcentrés un petit peu de signification à certains moments. L'inceste, pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a eu des vrais récits d'inceste. Anaïs Nin en est une preuve par l'exemple. L'inceste est une chose réelle qui est écartée de la scène du représentable. Il y a énormément également d'inceste, mais beaucoup plus symbolique, à des niveaux très très différents, à des niveaux sous-entendus, dans des romans beaucoup plus classiques, etc. Je pense qu'on peut dire que l'érotisme, c'est également un angle pour aborder une œuvre, beaucoup plus qu'une catégorie dans laquelle on peut ranger une œuvre. C'est qu'on peut l'aborder sous l'angle érotique, sous cette articulation finalement entre ce qu'on ne veut pas voir et ce qu'on voit quand même, et cette espèce de trou sacré dans lequel on renvoie un petit peu tous nos tabous et toutes nos peurs, finalement.
Est-ce que c'est ce qu'on ne veut pas voir et qu'on voit quand même, ou est-ce que c'est ce qu'on veut voir et qu'on ne voit jamais ?
Il y a un truc avec... Il y a une formule de... Je ne sais plus qui dit ça, mais que l'œil est le plus cruel des organes. Qu'il y a quelque chose dans la vision, dans le fait de voir, en même temps, un mouvement de rejet. On refuse de regarder, on ferme les yeux dès que quelque chose ne nous plaît pas. Mais en même temps, il y a aussi cette fascination morbide de la tentation de voir, regarder à travers ses doigts, le voyeurisme en soi, qu'est-ce que c'est ? L'érotisme, c'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de faire pénétrer dans des sphères dans lesquelles on n'a pas l'habitude de pénétrer habituellement, faire tomber les barrières de l'intimité, notamment. Il y a des romans qui sont considérés comme érotiques, dans lesquels il y a des détours monumentaux. Je pense, par exemple, à Histoire d'eau. C'est incroyable comme c'est cru. Et pourtant, vous ne verrez pas une seule fois le terme de pénis. des manières extrêmement, moi je dis ça, un peu exquise, un peu empoulée.
Vous
peu...
en avez un avant-goût dans une émission qui est podcastée, hein, mais c'est pas la réécouter, ça date d'il y a 3 semaines, c'est toujours tout frais.
Et c'est vraiment très très bien écrit. Ça, c'est pareil, il y a tout un jeu autour du langage, notamment par exemple dans Justine, dans laquelle au début il fait Justine. Démontrer le principe de la supériorité du vice sur la vertu, évidemment.
Donc, le on même vous renvoie à la chronique aussi de Sophie,
qui
est en podcast. Quand on a la spécialiste du cul, le souci.
Dans Justine, il y a vraiment une évolution dans laquelle, au début, il écrit Justine à la première personne, donc du point de vue de Justine. Il raconte des choses qui sont absolument scabreuses, il veut raconter des choses scabreuses. Mais en même temps, il reste bloqué. Pourquoi ? Parce que Justine, par exemple, ne dispose pas d'un vocabulaire libertin. Mm. Et du coup, il y a une évolution dans la narration. Il écrit d'abord Justine, ensuite il écrit une nouvelle Justine. La narration, cette fois-ci, n'est plus à la première personne, mais à la troisième. Et là, il se libère un peu. Et après, carrément, on va dans Juliette, et là, c'est le récit à la première personne, mais par la vicieuse. Donc là, il y a vraiment une espèce d'explosion.
La bride est lâchée.
Ah ouais, la bride est complètement lâchée. Il y a vraiment une explosion du vocabulaire, de l'imaginaire érotique, qui, de fait, est un peu dégénéré, hein, si on peut se permettre. Genre, chez Sade, il y a aussi cette chose dans laquelle l'obscène est tellement, tellement présent. Il veut tellement épuiser en fait le l'érotisme. Il crée une grammaire véritablement. Quand on lit du Sade, c'est que des Legos d'humains sur Legos d'humains avec des combinatoires complètement farfelus, vraiment grotesques et quelque chose de très carnavalesque avec tous ces valets, ces mélanges de nobles, de putains, de vieux, de laides. Et c'est obscène, c'est vraiment obscène parce que véritablement, quasiment toute sensualité en est ôtée. Et il y a aussi ça dans l'érotisme, c'est pour ça que c'est aussi proche de la mort, finalement. Je vais peut-être me permettre ici quelques citations, absolument pas de moi. Un des grands théoriciens de l'érotisme, en l'occurrence en littérature, c'est Georges Bataille, qui vient avec nous un petit peu dans cette idée de pulsion de vie, pulsion de mort, en disant que l'érotisme est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Et Julien Green, qui probablement dans la continuation finalement de ce que raconte Bataille, dit que l'aboutissement normal de l'érotisme est l'assassinat, dans le sens où il y a cette volonté d'aller chercher, d'aller puiser dans cette grammaire qui est quand même finalement une grammaire qui est très limitée, l'érotisme. La combinatoire des corps, il n'y a pas 36 millions de manières de le faire. On est sur des nuances infimes, de variantes infinies, une grammaire en soi. Et donc il y a un épuisement certain. Mmh. Et cet épuisement, cette nécessité un peu du renouveau, c'est quand même un peu le problème du modernisme qui veut genre toujours détruire ce qu'il y a eu avant pour créer quelque chose de mieux, quelque chose de plus original, quelque chose... Au final, on finit par arriver au bout des limites, nécessairement, ou en tout cas au bout des potentialités. Donc, il y a cette tentation de la mort, du morbide, du mortifère, de la destruction, en fait, finalement, parce que dans cette combinatoire avec l'autre, c'est beaucoup aussi des rapports de pouvoir qui se jouent, finalement.
Mais ouais.
C'est pour ça aussi que tu en parlais comme un espace de potentielle émancipation, parce que c'est le lieu du corps, c'est le lieu du matériel, c'est le lieu où se réalisent certaines choses, et c'est pour ça que l'érotisme est un tel espace de liberté aussi. Mmh. C'est un espace de code monumental. C'est assez impressionnant.
Mmh. Est-ce que tu penses que du coup, un jour, la société sera prête à ouvrir tous les enfers des bibliothèques?
Je ne pense pas. Je pense que ce serait une mauvaise chose.
Accéder à toute cette littérature-là sans... Sans devoir passer par des trucs qui n'en sont pas, en fait.
Bah, c'est-à-dire que l'érotisme existe aussi sur cette tension-là. Il existe sur cette tension entre le dit, le non-dit, le dissible et l'indicible. Et en même temps qu'il pointe du doigt les limites de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on peut représenter, il montre aussi les limites du réel et les limites de ce qu'on accepte de voir ou pas. Et qu'on le veuille ou non, je pense que les tabous sont nécessaires. Et le fait qu'on l'a interdit pendant longtemps, tous les auteurs qu'on a censurés, la censure crée un attrait, crée une fascination, crée un mystère.
Du coup, tu vois, il y a des choses qui sont censurées, alors que pourtant elles sont beaucoup plus juteuses, on va dire. Et à l'inverse, des choses qui ne sont pas censurées, alors qu'elles vont véhiculer un imaginaire...
Je pense qu'on a besoin d'une réflexion là-dessus.
Qui n'est pas du tout...
Je pense qu'on peut aussi regarder un peu du côté de qui donne accès, qui produit quoi, qui permet d'accéder à quoi.
Maintenant qu'on a défini un peu plus l'érotisme avec Sophie, on a vu plein de choses, on a vu les premiers émois... Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'érotisme? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la BD? Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'espace érotique de littérature? Des choses qui sont très très intéressantes qui se passent en ce moment. Et du coup, j'ai trouvé ça sur des articles de journaux. À commencer par un article du Monde qui s'appelle Néosex. Et en fait, c'est un retour sur le nouvel érotisme en BD. Et il se trouve que ce nouvel espace d'érotisme en BD, il est aussi très intéressant parce que le vrai désir, c'est de casser les codes, de déconstruire et surtout les schémas hétéronormés. Et le sadomasochisme est parfait pour ça, avec des jeux de rôle plus ou moins imposés, plus ou moins, enfin, puisqu'on est dans le fantasme, c'est pas le sadomasochisme comme on le fait dans la vraie vie, complètement démonté toutes ces idées justement hétéronormées, toutes ces relations hétérosexuelles, même le genre disparaît justement pour laisser place à juste la pratique en fait. C'est le désir et l'envie qu'on a avec son corps qui va définir nos rôles dans l'acte charnel. Et du coup, je revois un bouquin que je n'ai pas lu, mais qui a l'air très intéressant et qui va se retrouver très vite sur ma wishlist, qui est de Bernard Henrieux, qui s'appelle BDSM, petit jeu de mots, « Comment s'agenrer ?». Donc il y a vraiment une réflexion là-dessus. Et en plus, on peut voir qu'il y a des BD bien remises au goût du jour avec les requins marteaux, qui ont sorti BDQ, qui ont beaucoup parlé d'eux. Et ça, ça me fait me poser certaines questions, parce qu'en fait... Est-ce que c'est de l'érotisme ? Est-ce que c'est de l'érotisme ? Parce que dans Les Requins-Marteaux, bon, on a la comtesse de Haute-Picot. Haute-Picot qui est en fait une... revisiter les classiques du genre avec la comtesse qui est avec une espèce de vieux pis vinaigre qui, oh là là, c'est nul sa première nuit d'amour, alors elle est un peu désabusée du sexe. Est-ce que c'est vrai? Mais non, parce qu'il y a le jeune valet qui passe par là, et le jeune valet il va la tringler, enfin bref. On est toujours dans ce truc de le mari me convient pas, qu'est-ce que je vais faire de mes journées. On doit constater quand même que l'érotisme... Peut-être qu'il en manque un peu dans les propositions de BD de cul actuelles. Parce qu'on a les BDQ des requins marteaux, mais on a quoi? On a Vivès, hein, je suis désolée, niveau subtilité et panache, on repassera, c'est surtout des... En fait, c'est des grosses blagues potaches. Parce que Vivès, il nous fait la décharge mentale et les melons de la colère, déjà. Ça sonne comme l'écho des savanes. Et ensuite, on a des trucs genre l'Odyssée du vice de Delphine Panique avec des petits zizi qui sortent du sol.
Enfin, ça aussi, c'est des classiques du genre.
C'est le classique,
entre érotisme et grotesque, un peu.
Mais oui, mais du coup, on est plus sur de la blague potage que quelque chose qui va t'émoustiller, franchement.
En plus, il y a cette tension avec la bande dessinée qui est que l'obscène est beaucoup plus rapide parce qu'on montre directement.
Ah bah oui, la direct. Mais il y a aussi plein de choses. Par exemple, le vrai sexe de la vraie vie. De
Cyrielle.
C'est pas de l'érotisme, c'est pas du porno non plus, mais c'est quand même des scènes de sexe. En fait, on est plus proche du témoignage. Pareil, pénis de table, c'est des mecs qui discutent de leur sexualité.
C'est assez pauvre érotiquement.
C'est assez pauvre, et pourtant, on parle de sexualité. C'est ce que on disait tout à l'heure. À quel moment c'est de l'érotisme? Et c'est du coup, il y a tout un aspect pédagogie et témoignage qui revient beaucoup en fait sur les écrits qui sont mis en avant, en tout cas en ce moment. Finalement, est-ce que c'est pas la réappropriation d'un espace de parole légitime? Et je pensais entre autres au féminisme, parce qu'on en parlait, mais ça, les femmes qui s'approprient la littérature érotique et quelque part l'idée de leur corps et l'idée de leur sexualité, c'est déjà se réapproprier sa sexualité. Est-ce que l'érotisme actuel est résolument féministe? Les femmes se sont effectivement emparées de cet espace, mais c'est pas récent. Je veux dire, il y avait déjà la fanfiction. Je suis désolée, mais c'est que des nanas qui ont faim de cul. Je veux dire, on en parlait tout à l'heure, fétichette et tout ça, mais c'est une espèce de frustration.
Ah oui, lâcher le plus jeune âge.
La fanfiction, c'est tellement un monstre qu'il faudrait s'y attaquer. Il nous faudrait 3 émissions pour de la fanfiction.
Peut-être une prochaine.
Mais du coup, quid des écrits qui sortent? Ce côté vachement féminin et féministe, des écrits érotiques, ça se ressent par exemple dans La Musardine. C'est une maison d'édition donc, de romans érotiques. Et ils ont sorti la collection Point G, qui est la littérature érotique par des femmes, pour des femmes. La directrice, dont j'ai bien sûr oublié de noter le nom, qui disait que historiquement, leur clientèle était masculine, les auteurs aussi, mais que c'était en train de changer, d'où la création de Point G. Et je la cite, « Les femmes sont l'avenir du livre érotique, les hommes trouvant leur satisfaction sur Internet. » Donc en fait, on est vraiment là, on est...
Stokose.
Alors là, on est genre, c'est bon, c'est notre espace maintenant.
C'est magnifique. La littérature érotique, ça a toujours été un peu pour les femmes.
Ça a été assez beaucoup. Mais il y a toujours ce côté, c'est bien si c'est des hommes.
Pour les femmes, au sens où on a besoin de leur expliquer comment ça marche et de contrôler un petit peu leur libido aussi.
Puis on a peut-être besoin de s'occuper de notre libido et que si eux, ils se collent pas, il faut bien qu'on s'y colle entre nous. Bon, après, voilà. Mais donc, quid de l'avènement de la New Romance dont on parlait avec Marion? Parce que justement, Fifty Shades of Grey,
ça je vais pouvoir lire alors.
Beaucoup de questions, et ben pas ça.
Pas ça.
Et je vais vous dire pourquoi dans 5 secondes, c'est pas moi qui vais vous le dire, c'est Camille Emmanuel qui revient dans un essai qui s'intitule lettre à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite. Alors, Camille Manuel, pour vous la présenter, c'est une autrice de cul qui se dit sexploratrice, journaliste des questions de sexualité et sulfureuse féministe, et elle anime l'émission et podcast Crac Crac avec Monsieur Poulpe. Elle nous dit sur la New Romance, l'engouement pour la New Romance n'est pas une bonne nouvelle, du moins la production massive de ce genre très codifié. Il n'offre aux femmes ni liberté ni émancipation. Il n'est ni positif ni contemporain. On a beaucoup critiqué ces textes d'un point de vue littéraire, mais non leur contenu. Ce que je dénonce est le message que véhiculent ces livres, à mon sens, rétrograde et réactionnaire du point de vue de la sexualité féminine. C'est juste un conte de princesse, de bonne femme, sauf qu'on va dans la chambre à coucher. On reste plus sur le pas de la porte, quoi. Et il y avait dans cet article tout un tas de listes de chercheurs auxquelles je vous renvoie. Il y a une bibliographie aux petits oignons. Et il disait, c'était vraiment ça. C'est une jeune femme qui se peut expérimenter, qui se met sous le joug d'un homme riche et puissant et qui va lui ouvrir les portes du donjon rouge. Le seul bon côté de Fifty Shades, complètement sujet, c'est qu'ils ont fait une collection de sextoys, je sais pas si vous les avez vus.
Ah, ça a bien boosté les ventes. Ah, non, et on a des produits très jolis, un design et un packaging.
Oui, c'est bien, sauf qu'il y a écrit Fifty Shades of Grey, donc tu l'achètes pas parce que.
Tu ne veux pas jouer.
Oui, c'est ça, tu veux pas du tout. Pour revenir un peu sur ce qui avait été dit, puisqu'on arrive quand même sur cette fin d'émission. Et justement, cette nana, Camille Emmanuel, à suivre, et je pense qu'il faudrait la suivre, quoi, tout simplement. Parce que son projet, c'est de parler de sexe aux ados. On en venait avec les femmes, tout est lié. Et en fait, elle voudrait qu'on crée des contre-propositions à la pornographie. Elle pense que ça serait bien de faire de l'érotisme pour adolescents de la pornographie. Pour qu'ils aillent pas se nourrir leur imaginaire à base de New Romance ou de porno façon YouPorn. Elle a une fille qui est ado et elle dit « Je veux que ma gamine elle puisse s'ouvrir à la sexualité sans tomber sur ces clichés-là et penser que c'est ça, le sexe. »
Là, je suis 100% pour la pensée positive plutôt que la pensée négative. Parce que souvent, la tentation quand on parle de ces sujets-là, etc., notamment...
C'est de vouloir les interdire.
Interdire le porno aux adolescents, interdire... Ce serait illusoire. Ce serait complètement
et
illusoire.
Et on est la preuve, on est toutes tombées sur des trucs
parce
de cul, enfants.
De toute façon,
vous cherchez pas, ça venait à nous.
Mais oui, mais je veux dire, est-ce que vous êtes traumatisés? Peut-être qu'on est toutes là. Peut-être on est des féministes, on a un gros problème quand même. Un gros problème dans notre schéma.
Le problème, c'était pas tant de tomber dessus, plutôt que de tomber dessus dans la solitude et d'avoir personne qui nous permette à contextualiser, questionner.
Et de sentir que tu peux pas le dire parce que c'est tabou et que tu n'as pas le droit de voir ça.
Finalement, tu comprends pourquoi c'était rangé sur la dernière étagère et que non, tu n'iras pas demander à maman pourquoi il y a cette BD. Ponyplay, qui est entre deux dérives.
Alors qu'en définitive, que tu aurais lu ce roman, s'il n'avait pas été, par exemple, placé sur les étagères du haut, tu vois, qu'il avait été placé sur les étagères du bas, tu l'aurais lu, ça t'aurait paru étrange, mais ça t'aurait pas paru aussi mystérieusement étrange.
Je suis pas sûre, je pense qu'on avait déjà intériorisé très tôt ça, que le cul, c'est pas tabou.
Ça dépend aussi de comment sont tes parents avec toi sur la question de la sexualité. En général, tu sens s'il y a des moyens de discuter ou pas.
Il y a aussi juste toute une partie de la critique qui se demande aussi si, par exemple, à l'heure actuelle, l'érotisme n'est pas mort, juste tout simplement mort. Parce qu'il y a cette crudité des images, parce qu'il y a cette obscénité constante, parce qu'il y a ce rapport au corps qui est très très plein d'injonctions paradoxales, quelque part entre la sexualisation outrancière dans la communication et en même temps l'acte de chair en lui-même qui est complètement tabou. Le fait que le sexe devienne un objet en lui-même, plus que la relation sexuelle entre deux individus, je pense que ce sont des gens
qui ont une vision de ce qu'est la pornographie et l'érotisme très hétéronormé et très cisgenré, parce qu'on voit les nouveaux pornos féministes, pour sortir un peu la littérature et pour aller dans la vidéo, à Berlin entre autres, où c'est très très ils y vont fort, il y a tout un tas de façons de réinventer effectivement l'érotisme en vidéo.
En fait, il faut sortir des grammaires et des canons déjà préétablis.
Oui, je pense que ça se réinvente tout seul, c'est qu'il faut pas non plus crier.
Non, il faut. C'est pour ça que je parle d'action positive un peu. Tu vois. Il faut éduquer et il faut proposer des choses aussi en fait. Il faut proposer des choses et que ces choses soient publicisées. C'est un peu ça qui est important aussi, c'est que en effet, si on ne donne à nos enfants que un accès complètement abandonné au porno ou à Internet, juste de manière générale, sans même parler du porno sur Internet. Internet est un endroit à vice. C'est une boîte de Pandore monumentale. La vie est un endroit à vice. Il faut jeter de la lumière un peu sur les vices pour pouvoir, quelque part, dans une certaine mesure, même si on reste dans un point de vue moral, ce que je me permets ici.
Et du coup, elle va lancer son projet d'écriture sur...
je crois qu'elle avait déjà commencé à faire... parce que bien sûr, j'ai eu la liste de ses livres qui n'étaient pas forcément dans cela, mais elle lançait une collection, il me semble, de bouquins érotiques, lisibles, c'est un peu ridicule de dire ça, mais lisibles par des ados. En fait, elle encourageait les ados à lire de la bonne littérature érotique pour se faire une autre idée, en fait, pour pas tomber que sur le porno cru, quoi. Mais du coup, peut-être que ça rejoint aussi la pédagogie dont je parlais précédemment sur les BD, et c'est peut-être pas un mal qu'il y ait tout ce côté, tout ce pan pédagogique qui se développe, témoignage qui se développe sur les BD, mais effectivement tout ce côté maintenant où on va briser le tabou et on va effectivement parler de ça et le revendiquer et le penser différemment, peut n'être que bénéfique finalement. Oui, et ça va
il faut
être
ouvrir la parole là-dessus. C'est ça aussi qui est terrible, c'est que dans nos sociétés actuelles du 21e siècle, France, Paris, n'importe quoi, c'est très difficile d'aborder ces sujets-là, de publiciser ces sujets-là. C'est pas que c'est très difficile, il y a tout un tas d'études qui s'y consacrent, mais de très loin, avec des petites baguettes et des petites pincettes, et voilà. Donc non, je pense qu'il faut une réflexion sur l'érotisme, la pornographie, l'obscène, il faut travailler ces concepts-là, il faut travailler les imaginaires et comprendre aussi comment ils nous influencent, très probablement. Parce que c'est un domaine qui nous influence.
Et le travailler en qualité aussi, parce qu'on a vu le problème de la fanfiction, c'est que c'est des recettes. C'est pas juste le plaisir d'écrire son fantasme pour le plaisir d'écrire son fantasme.
On peut avoir un haut degré de littérarité et de fait, pour saisir, je pense que pour saisir un certain rapport au réel, l'érotisme est nécessaire de toute façon en littérature.
Et je vais en profiter pour placer ma petite pub. Parce que je vais faire la pub comme une sale, ça sert à ça, les radios associatives. Et donc, si vous voulez supporter un projet érotique en construction, avec une grande part d'autrices féminines.
Parce qu'il faut ouvrir la voie.
Et surtout, mais qui n'est pas particulièrement axé, il y a des mecs aussi, vous inquiétez pas, c'est pas forcément féministe, mais c'est bon d'avoir plusieurs points de vue et d'ouvrir ce dialogue. C'est que des jeunes auteurs, et en fait, c'est un projet réalisé donc avec Sophie, qui est avec moi actuellement, et 6 autres auteurs. Ça s'appelle Sorcière, et c'est un recueil de poésie et de nouvelles sur les sorcières, justement, et des nouvelles érotiques. Et donc, il y a vraiment des genres très différents.
C'est un projet qu'il faut, en fait, financer.
C'est un projet qu'il faut financer. Il y aura la page Facebook Sorcière au pluriel tiré Fantasmatique au pluriel, où vous pourrez suivre les actualités et le déroulé du projet. Et ensuite, sinon, il y a tout simplement le financement participatif qui sera sur cette page. Je ne peux pas vous donner le lien comme ça parce que ça n'a aucun sens, mais qui sera sans doute avec le podcast.
Sur
le podcast,
sur nos réseaux sociaux. Et du coup, quand il y a un financement participatif, qu'on ne peut pas donner, on fait quoi? On partage à tout le monde.
On partage, j'allais dire.
À sa grand-mère,
on envoie des ondes positives.
À son proche.
On envoie des ondes positives pour soutenir. Ce n'est pas une somme astronomique, mais en fait, c'est la somme pour imprimer les bouquins et les petites compensations. Parce que bien sûr, il y aura du super marketing autour, il y aura des ex-libris, il y aura des
marques. Est-ce que t'as prévu un coffret sextoy et spécial édition?
Alors non, mais il y a un ticket de tombola. Attendez, il y a un ticket de tombola pour toutes les personnes qui mettent plus de 15 euros. Et il y a un sextoy en bois fait par un artisan à gagner à la clé.
Mon Dieu.
Voilà, et franchement, ils sont cool. Et donc voilà, ça aide des étudiants, des jeunes auteurs, et en plus, c'est que du plaisir, dont Sophie, et moi. Et les autres auteurs seront Marine Cosolini, Mathilde Guy pour la poésie, Amélie Ruch pour la poésie aussi, Amélie Rucha. Et côté team mec, on a Vincent Troé et Gaël Laurent. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai fait ma salle.
Ça me semble très honnête pour cette.
Ouais, on ouvre une voie sur le futur, donc c'est une bonne manière de faire.
Allez,
Loki pour tout. Si vous avez aimé cette émission, vous pouvez aussi la partager. Lisez nos descriptions, parce qu'on met du temps à les écrire et qu'elles sont chargées de liens et d'amour et de plein d'autres choses.
Surtout celle-là, elle va être très très
fat. Faites-nous des retours aussi, parce que les feedbacks c'est important pour avancer en littérature, en érotique et dans la vie.
Et dites-nous aussi si vous aimez le format, hein, parce qu'on essaie de faire des choses un peu plus...
Tentative de plateau plus parlé.
Et voilà. Bisous.
Bye. Bye.